Les conférences du Collège de France.
Okay, let me wholeheartedly thank the First Lady of Lithuania and the Rector of the University of Vilnius for supporting this scientific initiative very much through their presence here and through their passionate speeches, really inspired by principles of humanism and really aiming at international cooperation at the European level, at the level of the world, in fact. Now, let me then switch to the presentation of the conference, which will be the central scientific event for today. And let me switch to French, as the talk will be presented by Professor Petit in French. So, nous lisons dans le cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, la tâche de la linguistique sera A, de faire la description et l'histoire de toutes les langues qu'elle pourra atteindre, B, de chercher les forces qui sont en jeu d'une manière permanente et universelle dans toutes les langues. Il y a donc dans la conception saussurienne un rapport dialectique nécessaire entre l'universel et le particulier, les principes généraux du langage et la description des langues particulières. Cette conception, qui restera la base de toute la linguistique comparative à venir, est reprise par Antoine Meillet, élève de Saussure, à l'École pratique des hautes études. Dans sa leçon inaugurale du cours de grammaire comparée au Collège de France, en 1906, Meillet écrit « La recherche de loi générale doit être désormais l'un des principaux objectifs de la linguistique. Mais, dès par leur définition même, ces lois dépassent les limites des familles de langues. Elles s'appliquent à l'humanité entière. Donc, en comparant les langues indo-européennes, on contribue à l'étude du langage en général. » Meillet illustre dans sa leçon la nécessité d'une méthode résolument comparative, basée sur l'analyse détaillée d'autant de langues que possible. Dans cette quête de propriété générale du langage par la comparaison, chaque langue peut donner une contribution essentielle. Les langues baltes, et le lituanien en particulier, avaient attiré l'attention de Saussure et de Meillet par le haut degré de préservation de structures et propriétés anciennes. Nous lisons dans le cours saussurien, le lituanien, qui se parle encore aujourd'hui, n'est connu par des documents écrits que depuis 1540. Mais à cette époque tardive, il offre dans l'ensemble une image aussi fidèle de l'indo-européen que le latin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Un point réitéré et renforcé plus tard dans le cours saussurien. Le mot « ancien » peut désigner un état de langue plus archaïque, c'est-à-dire dont les formes sont restées plus près du modèle primitif, en dehors de toute question de date. Dans ce sens, on pourrait dire que le lituanien du XVIe siècle est plus ancien que le latin du IIIe siècle avant notre ère. On retrouve l'écho des propos saussuriens chez Meillet, par exemple dans son introduction à l'étude de langue indo-européenne. Le lituanien, je cite, est remarquable par quelques traits qui donnent une impression d'antiquité indo-européenne. On y trouve encore au XVIe siècle et jusqu'aujourd'hui des formes qui recouvrent exactement des formes védiques ou homériques. Nous retrouvons ces considérations dans les souvenirs du public des cours de Meillet au Collège de France. Edmond Privat écrit « Qui veut retrouver sur les lèvres des hommes un écho de ce qu'a pu être la langue commune indo-européenne, dit M. Meillet au Collège de France, va écouter les paysans lituaniens d'aujourd'hui. » Donc les paysans lituaniens nous donnent une idée relativement précise de ce que la langue commune indo-européenne aurait pu être. D'ailleurs, la pertinence du lituanien pour les études de linguistique historique et comparative ne se limite pas au débat du siècle dernier, ni à l'archaïsme des formes lexicales ou de la phonologie. Par exemple, certaines propriétés morphosyntaxiques de la langue sont prises en compte dans l'approche de Guglielmo Cinque, qui combine le résultat de la typologie à la Greenberg avec les principes explicatifs de la grammaire générative, et aussi par la méthode de la comparaison paramétrique de Giuseppe Longobardi, qui essaye de renouveler l'approche comparative historique sur la base d'une comparaison non pas des formes lexicales, mais des paramètres de variation de la syntaxe. Sur tous ces thèmes, les idées, le travail de Meillet, l'actualité du lituanien pour la linguistique contemporaine, nous allons entendre maintenant, après une courte pause, la conférence de M. Daniel Petit, professeur à l'École normale supérieure. Cette conférence, dans le cadre de la saison de la Lituanie en France, met aussi en lumière un nouveau partenariat entre le Collège de France et l'ambassade de Lituanie. Suite au classement du fonds d'archives d'Antoine Meillet, un manuscrit portant sur le lituanien a été retrouvé. L'ambassade a financé la numérisation de ce document qui va faire l'objet d'une étude approfondie par le professeur Petit. Donc nous allons entendre sa conférence, mais après 5 minutes de pause. Je vous remercie.
Visu pirma, noriu padėkoti Lietuvos pirmajai ponai už dalyvavimą šioje konferencijoje. Man atrodo, kad Lietuvių delegacija dabar turi atsisveikinti, tai atsisveikinam. Labai ačiū už dalyvavimą ir padarysim pertraukėlę. Voilà, nous allons faire une petite pause pour laisser la délégation lituanienne nous quitter, prendre congé de nous. Et nous la remercions infiniment de sa présence lors de cette conférence. Merci. Nous allons donc commencer cette communication consacrée à la langue lituanienne, histoire et perspective, et je commencerai par quelques considérations d'ordre général. La linguistique du XIXe siècle était caractérisée par deux tendances apparemment contradictoires. D'une part, elle était très liée à la philologie des textes anciens, c'est-à-dire à l'analyse des vastes corpus transmis depuis l'Antiquité en grec, en latin et en sanskrit. Le développement de la grammaire comparée indo-européenne à partir de Franz Bopp, 1816, n'a pas modifié cet intérêt particulier pour la philologie. Et jusqu'au début du XXe siècle, linguistique et philologie demeurèrent étroitement associées l'une à l'autre. Mais d'un autre côté, la linguistique du XIXe siècle était également sensible à l'idée développée depuis le philosophe Herder, que la langue parlée par le peuple était plus authentique que celle des productions écrites. Ces deux tendances ont conduit plusieurs linguistes du XIXe siècle à entreprendre, à côté de leurs analyses des textes anciens, des voyages ethnographiques et linguistiques pour aller recueillir auprès de locuteurs vivants les langues sous une forme orale immédiate. Il est à cet égard significatif de relever un trait commun entre trois des linguistes les plus éminents du XIXe siècle, August Schleicher, Karl Brockmann et Ferdinand de Saussure. Tous trois ont entrepris un voyage en Lituanie pour enregistrer auprès des paysans la langue parlée, recueillir du matériel folklorique et prendre connaissance des particularités des dialectes vivants. L'intérêt pour la langue lituanienne au XIXe siècle peut s'expliquer par deux raisons principales. Cette langue indo-européenne de la sous-famille baltique, proche du letton, présentait deux caractères qui en rendaient l'étude essentielle pour les linguistes. Tout d'abord, le lituanien était connu pour son conservatisme, c'est-à-dire pour sa ressemblance avec les langues les plus anciennes de la famille indo-européenne, et ce alors même que le lituanien n'est documenté à l'écrit que très tard, à partir du XVIe siècle de notre ère. L'archaïsme du lituanien, on le verra, est très frappant et a très vite attiré l'attention des linguistes préoccupés par la préhistoire des langues indo-européennes. Le second aspect, qui permet de comprendre l'intérêt pour la langue lituanienne, et le fait que cette langue était au XIXe siècle soumise à la pression de langues dominantes, l'allemand, le polonais et le russe. Depuis le XVIe siècle, la Lituanie était séparée en deux zones différentes. La partie occidentale, autour de Königsberg, l'actuel Kaliningrad, et Memel, l'actuel Klaipeda, sous domination allemande, et la partie orientale, autour de Vilnius et de Kaunas, sous domination polonaise, puis, à partir de 1795,
sous domination russe après l'intégration forcée au sein de l'Empire russe. La partie occidentale, soumise à la pression de l'allemand, était la petite Lituanie. La partie orientale, soumise à la pression du polonais et du russe, était la grande Lituanie, héritière du grand-duché de Lituanie autrefois indépendant, puis dominée par la Pologne et plus récemment l'Empire russe. Dans la partie russe, l'usage écrit du lituanien en caractère latin fut même interdit. À partir de 1863, seule l'écriture cyrillique étant tolérée. Et une part importante de la culture lituanienne se réfugia en petite Lituanie. Sur les deux territoires, la langue lituanienne était parlée par un nombre limité de locuteurs et son existence pouvait donc paraître menacée aux yeux des linguistes occidentaux qui s'y intéressaient. Il y avait donc chez ces linguistes le sentiment d'une certaine urgence à recueillir les données de la langue lituanienne avant qu'il ne fût trop tard. Le XXe siècle n'a pas confirmé cette crainte, bien au contraire, il a consolidé la position du lituanien grâce aux deux périodes d'indépendance de la Lituanie. La première indépendance, 1918-1940, et la seconde indépendance, depuis 1990. Actuellement, le lituanien qui possède un statut de langue officielle dans la République de Lituanie est parlé par plus de 3 millions de locuteurs. L'intérêt pour la langue lituanienne en France est une tradition ancienne qui débute au XIXe siècle et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Il faut d'abord mentionner le nom du linguiste genevois Ferdinand de Saussure, qui est considéré comme le fondateur de la linguistique moderne. Il est moins connu que Saussure a été l'un des plus importants spécialistes de la langue lituanienne. Ses travaux sur l'accentuation lituanienne sont d'une importance cruciale pour ce secteur de la linguistique de cette langue. Saussure a enseigné deux fois un cours de lituanien, une fois en 1888-1889 à Paris, à l'École pratique des hautes études, la seconde fois en 1902-1903 à l'Université de Genève. Il est certain que le linguiste Antoine Meillet, alors jeune étudiant, a suivi le cours de lituanien donné par Saussure en 1888-1889. C'est dans ce contexte qu'a pris naissance l'intérêt de Meillet pour la langue lituanienne. L'un des élèves de Meillet, Robert Gauthier, se spécialisa dans la langue lituanienne, dont il décrivit un dialecte en 1903. Sa mort précoce, durant la Première Guerre mondiale, en 1916, affecta durablement Meillet, qui écrivit dans la nécrologie de son élève « Quand j'essaie de parler de lui, il me semble que je parle un peu de moi-même ». L'intérêt de Meillet pour le lituanien grandit après la Première Guerre mondiale, lorsque la Lituanie acquit son indépendance. On sait que Meillet fit un voyage en Lituanie, à Kaunas, en 1922, et qu'il y rencontra deux linguistes éminents, Kazimierz Bouga et Jonas Jablonskis. Il est probable que c'est à cette époque qu'il commença à rédiger des notes pour un cours de lituanien, dont la découverte récente dans les archives du Collège de France a été le point de départ de la présente communication. Ces notes, qui seront présentées après mon exposé par Ina Valintelite et Noël Valentin, offrent une ébauche de grammaire historique du lituanien, concentrée, comme il était encore d'usage à l'époque, sur la phonétique et la morphologie historique. L'exploitation de ces documents exceptionnels reste devant nous, afin qu'on puisse les situer dans l'histoire de la linguistique, ainsi que dans l'histoire des études lituaniennes. Après la Seconde Guerre mondiale, la Lituanie, comme l'ensemble des pays baltes, fut occupée par l'Union soviétique. Elle ne retrouva l'indépendance qu'en 1990. Pour les linguistes français, la période de l'occupation soviétique a d'abord impliqué de très sérieuses difficultés d'accès à la langue lituanienne et à ses locuteurs. Ce n'est que progressivement que l'enseignement du lituanien retrouva sa place en France, en particulier à travers Michel Chikwen, qui avait appris le lituanien à Moscou, probablement en 1958-1959, puis dans les années 1970, et qui créa à l'INALCO un cursus de lituanien d'abord en 1979, puis plus complètement en 1985, avec un premier lecteur de langue, le graveur Gibuntas Mikšys, qui vivait à Paris. Entre 1993 et 1996, je fus l'un des étudiants de Michel Chikwen, à l'époque où la Lituanie vivait les premières années de son indépendance. C'était une période passionnante pour qui découvrait ce pays alors en pleine mutation. Depuis, la Lituanie est devenue aisément accessible. Elle a rejoint l'Union européenne en 2004 et l'espace Schengen en 2007. L'étude de la langue lituanienne a donc connu en France une très longue tradition d'intérêt et de recherche qui fut parfois intense, parfois discontinue, et l'on peut se demander ce qui explique pourquoi cette langue a particulièrement attiré l'attention des linguistes jusqu'à aujourd'hui. D'une manière schématique, on peut distinguer trois aspects de la langue lituanienne qui ont justifié sa position un peu spéciale parmi les langues d'Europe. Un aspect historique, un aspect aréal et un aspect typologique. Sous chacun de ces aspects, le lituanien offre des données linguistiques extrêmement originales. Je souhaiterais désormais présenter sommairement certains des traits de la langue lituanienne qui relèvent de ces trois aspects. Historiquement, le lituanien appartient parmi les langues indo-européennes à la sous-famille des langues baltiques, dont sont membres également le letton et le vieux prussien, ce dernier étant une langue désormais éteinte, parlée dans la région de Königsberg jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Même si le nom de la Lituanie est connu depuis longtemps dans des sources latines, polonaises, russes ou allemandes, la première mention de Litua, la Lituanie, date de 1009, ce n'est que tardivement que la langue lituanienne fut consignée par écrit. Si on laisse de côté quelques gloses et fragments du début du XVIe siècle, ce n'est qu'en 1547 que parut le premier texte lituanien, le catéchisme protestant de Martinas Mažvydas. Jusqu'au XVIIIe siècle, la littérature écrite en lituanien fut presque exclusivement religieuse, qu'elle soit liée au protestantisme, par exemple avec Mažvydas, ou encore avec Jonas Bretkūnas, traducteur de la Bible à la fin du XVIe siècle, ou qu'elle soit liée au catholicisme, par exemple avec Mikalojus Daukša, auteur d'une imposante Postilla Katolicka de 1599, ou avec Konstantinas Sirvydas, auteur notamment du premier dictionnaire lituanien aux environs de 1620. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour voir apparaître les premiers textes de littérature profane, en particulier le grand poème Miatai, Les Saisons, écrit vers 1765-1775 par Kristijonas Donelaitis. La littérature lituanienne est donc d'une date relativement tardive en Europe. En dépit de cette documentation tardive, le lituanien est unanimement reconnu comme la langue indo-européenne la plus conservatrice. Il est à cet égard essentiel en linguistique historique de distinguer deux notions qui sont souvent confondues par le grand public, l'antiquité et l'archaïsme. L'antiquité est une notion philologique qui concerne la date d'attestation des premiers textes. L'archaïsme est une notion linguistique qui concerne la proportion de formes et de structures héritées dans une langue. Le lituanien n'est pas une langue ancienne, mais il est une langue archaïque. L'archaïsme du lituanien est frappant dès le premier regard, et l'on peut dire qu'il a déjà ébloui les premiers savants qui se sont penchés sur cette langue. Au XVIIe siècle, dans un traité intitulé « De moribus tartarorum lituanorum et moscorum » publié à Bâle en 1615, l'humaniste Mikalojus Lituanus signale que de nombreux mots latins ont des correspondants exa en lituanien. Et il en donne une liste que vous avez ici reproduite sur le tableau. Durant cette période, la proximité apparente et visible du lituanien et du latin a pu conduire certains à élaborer une légende tirant le peuple lituanien de la Rome antique, à travers un chevalier appelé Palemonas qui aurait fui les persécutions de Néron pour se réfugier au nord de l'Europe. Ce récit mythique a longtemps perduré en Lituanie. D'autres auteurs ont signalé des proximités évidentes avec d'autres langues anciennes, telles Philippe Rouich, au XVIIIe siècle, qui écrivit tout un traité pour dériver le lituanien du grec ancien. Longtemps aussi, on a rapproché directement le lituanien et le sanskrit en raison de la ressemblance, voire de l'identité de certains mots. Vous en avez ici une liste incomplète, bien sûr, où l'on voit la ressemblance très forte entre le lituanien et le sanskrit. Au-delà de ces ressemblances lexicales, dont le nombre pourrait être multiplié, il existe aussi des ressemblances grammaticales tout à fait remarquables. En premier lieu, on a vite été frappé par le fait que la langue lituanienne est une langue flexionnelle, avec des déclinaisons, caractérisée notamment par l'existence d'un riche système de cas, à l'instar des langues indo-européennes anciennes. En regard du sanskrit, qui conserve les 8 cas de l'indo-européen, le lituanien possède encore 7 cas, qui sont présentés comme suit dans les grammaires. nominatif, accusatif, génitif, instrumental, datif, locatif, vocatif. L'archaïsme du lituanien se fonde enfin sur l'analyse des processus diachroniques qui ont conduit à sa forme actuelle. Je ne prendrai ici qu'un exemple, le plus complexe, celui des tons ou intonations syllabiques. Le lituanien est l'une des rares langues européennes à posséder un système tonal. Depuis les premières descriptions qui remontent à Friedrich Kurchat en 1849, on distingue en lituanien ce qu'on appelle traditionnellement l'intonation douce et l'intonation rude. Chaque voyelle longue ou diphtongue est caractérisée par une mélodie spécifique séparant deux fragments. Une intonation douce se réalise comme un ton montant sur la seconde partie, une intonation rude comme un ton descendant à partir de la première partie. Si l'on part de l'exemple de diphtongue, celles-ci apparaissent en lituanien comme constituées de deux éléments dissemblables. AO, par exemple, peut être analysé comme l'association de A et OU. La même analyse peut être appliquée aux voyelles longues, qui sont en quelque sorte des diphtongues constitués de deux éléments semblables. Oulon est ainsi décomposable en OU plus OU, au même titre que AO l'est en OU, A plus OU. L'intonation douce implique une première partie à ton bas, puis l'élévation du ton sur la seconde partie. L'intonation rude implique l'élévation de la première partie, puis une descente du ton. On peut ainsi opposer le nom Aukstas, étage, avec intonation douce montante, et l'adjectif Aukstas, haut, avec intonation rude descendante. Dans les voyelles longues, la même distinction existe, mais elle est beaucoup moins sensible à l'oreille dans l'usage contemporain. On pourrait opposer, par exemple, Kuumas, le parrain, avec intonation douce montante, et Kuonas, le corps, avec intonation rude descendante. Historiquement, les tons du lituanien s'expliquent en général par une structure syllabique originellement différente, dont le principe remonte aux travaux de Ferdinand de Saussure. Saussure observe la distinction entre, par exemple, remti, appuyé, avec intonation douce montante, et vemti, vomir, avec intonation rude descendante. Et il remarque que cette distinction répond à une différence de structure en sanskrit. Le verbe sanskrit correspondant est, d'une part, ramati, mettre en repos, et vamiti, vomir. Ce que l'on voit est que la structure EM avec intonation douce montante de ramti lituanien répond à une structure AM du sanskrit, ramati, tandis que la structure EM du lituanien avec intonation rude descendante dans vemti répond à une structure différente du sanskrit ami dans vamiti. Pour le sanskrit, on parle de racine sans i dans le cas de ramati, et de racine avec i dans le cas de vamiti. La voyelle i du sanskrit a été identifiée en l'occurrence avec une consonne dite laryngale, notée h, de l'indo-européen, si bien qu'on reconstruit désormais la première forme approximativement comme rem et la seconde comme wem avec laryngale. La conséquence de cette analyse est que l'intonation rude descendante du lituanien provient d'une structure originellement terminée par une consonne laryngale, tandis que l'intonation douce montante du lituanien provient d'une structure originellement non terminée par une consonne laryngale. Le lituanien se trouve ainsi dans la situation exceptionnelle de refléter indirectement l'existence de consonnes laryngales autrement perdues dans toutes les autres langues indo-européennes, à l'exception du hittite au second millénaire avant notre ère. C'est un archaïsme absolument prodigieux. Du point de vue de la typologie linguistique, il n'est pas anodin d'observer qu'un système tonal dérive historiquement de la perte d'une consonne. Le lituanien confirme ainsi les observations faites sur d'autres langues concernant ce qu'on appelle la tonogenèse, c'est-à-dire la création de tons. Le système tonal du lituanien a des effets considérables sur un autre aspect très archaïque de la langue, son système accentuel. L'accent lituanien est libre et peut tomber sur n'importe quelle syllabe. Il est par exemple initial dans un mot comme varna, la corneille, mais final dans un mot comme jema, l'hiver. L'accent est en outre mobile, c'est-à-dire qu'il peut changer de place au cours de la déclinaison. L'accent est final dans le nominatif jema, l'hiver, initial dans l'accusatif jema, puis à nouveau finale dans le génitif « giemos ». Les courbes accentuelles du lituanien sont très complexes et ne trouvent qu'un parallèle très approximatif dans celles du russe. Ce qui est frappant est que ces courbes accentuelles sont parfois sensibles aux différences tonales. Quand on compare deux génitifs, tels que « varnos » corneille et « rankos » la main, on voit que la diphtongue du radical a l'intonation rude descendante dans le premier cas, l'intonation douce montante dans le second. Or, cette différence est directement ce qui explique la position de l'accent dans un autre cas, le nominatif. Si l'intonation du radical est rude descendante, l'accent reste au nominatif sur la syllabe initiale, d'où varna, corneille, mais si l'intonation du radical est douce montante, l'accent est alors attiré sur la syllabe finale, d'où le nominatif ranka, la main. Cette loi accentuelle est appelée loi de Saussure, d'après le linguiste Ferdinand Saussure, qui en a énoncé le principe en 1894. Ces quelques exemples montrent l'importance fondamentale de la langue lituanienne pour la linguistique historique indo-européenne. On a parfois accordé une importance quasi exclusive à cette approche historique du lituanien, et il n'est pas question d'en rejeter la validité. Toutefois, il faut lui apporter quelques nuances. Tout d'abord, il ne faut évidemment pas se laisser éblouir par le très fort sentiment d'air de famille qu'on peut avoir quand on compare le lituanien avec les langues indo-européennes anciennes. On ne construit pas une théorie linguistique sur de simples ressemblances. Mais même les archaïsmes les plus profonds, ceux qui manifestent l'exceptionnelle conservation d'héritages indo-européens, ne sont pas ce qui caractérise le mieux la langue lituanienne. Comme toute langue, elle n'est pas seulement le produit de son histoire, elle est aussi marquée par d'autres paramètres, tels que sa position géographique et sa position typologique. J'aborde désormais l'approche géographique et aréale du lituanien. D'une manière superficielle, on identifie souvent cette approche à la question des contacts linguistiques qui ont eu lieu entre le lituanien et les langues voisines. Par sa position géographique, le lituanien, parlé sur les rives orientales de la mer Baltique, a été au voisinage de nombreuses langues, et dans son histoire, la Lituanie a été plusieurs fois soumise à un pouvoir étranger qui lui imposait l'usage d'une autre langue. Chacune de ces situations a laissé des traces, plus ou moins profondes, sur la langue lituanienne. C'est souvent à travers le lexique qu'on en voit les témoignages, mais je chercherai à montrer un peu plus loin que les autres domaines de la grammaire ont pu, eux aussi, être affectés. Si l'on se concentre d'abord sur les relations d'emprunt lexical, on constate plusieurs couches chronologiques qui vont de la préhistoire des langues baltiques jusqu'à l'époque contemporaine. Les données rassemblées dans le tableau suggèrent la complexité des emprunts et montrent qu'en dépit d'un fond lexical largement hérité de l'indo-européen, le lituanien était sensible également à l'influence de nombreuses autres langues, le gothique, le baltophénique, l'allemand, le slave oriental, le polonais et plus récemment le russe. Certains de ces emprunts lexicaux témoignent d'événements historiques, comme le passage des Goths venant de Scandinavie et descendant vers le Danube au 1er siècle de notre ère, l'arrivée des Allemands en Prusse orientale au cours du Moyen-Âge, l'intégration de la Lituanie au royaume de Pologne à partir du 14e et surtout du 16e siècle, et plus récemment, l'occupation soviétique. Les dialectes lituaniens offrent une image plus diverse encore. Dans les régions de Prusse orientale, soumises à l'influence de l'allemand, on pouvait entendre encore durant la première moitié du XXe siècle un nombre important d'emprunts allemands. Au XVIIIe siècle, le poète Donelaitis, qui était originaire de Prusse orientale, emploie encore des mots tels que Schulmistras, maître d'école, de l'allemand Schulmeister, Jägere, le chasseur, de l'allemand Jäger, ou même Kartupele, pomme de terre, de l'allemand Kartoffel. L'histoire des mots individuels peut refléter une grande complexité dans les relations d'emprunt. À titre d'exemple, on peut prendre le mot lituanien kunigas, qui veut dire le prêtre. Ce mot, qui est tout à fait courant dans la langue moderne, est en fait un emprunt au moyen allemand kunig, mais il présente par rapport à sa source une différence de sens notable. Le mot allemand kunig, qui est prolongé en allemand moderne sous la forme König, signifie le roi et n'a qu'un sens politique, non pas religieux. La déviation sémantique du mot lituanien kunigas, le prêtre, s'explique si l'on prend en considération le dérivé kunigaikštis, le prince, dans lequel on retrouve un sens politique. Le couple kunigas, prêtre, kunigaikštis, prince, dans lequel le mot simple a un sens religieux, le mot dérivé un sens politique, trouve un parallèle exact dans les formes polonaises ksiądz, le prêtre, książę, le prince, où l'on observe la même répartition. Il est probable que l'évolution du sens politique au sens religieux s'est d'abord produite en polonais, voire plus loin, car elle se retrouve en tchèque, et a été ensuite imitée en lituanien. Cela signifie que kunigas est en lituanien un emprunt à l'allemand, modifié par une influence du polonais. Dans l'histoire des langues, on a accordé beaucoup d'importance aux emprunts lexicaux, sans doute parce qu'ils sont directement visibles. Mais on a été moins sensible aux influences indirectes qui se manifestent par l'imitation ou la diffusion de structures parallèles. Le lituanien n'a pas été exempt de telles influences, en particulier dans le domaine de la syntaxe. Mais il n'est pas toujours facile de les distinguer d'héritage partagé ou d'innovation autonome. On peut prendre ici un exemple caractéristique, celui de ce qu'on appelle l'instrumental prédicatif. Il existe en lituanien un cas spécial appelé instrumental, en général utilisé pour exprimer l'instrument de l'action, comme dans l'exemple 1. Planter un clou avec un marteau, plaktuku, avec un marteau, l'instrument de l'action se met à l'instrumental. Accompagné de la préposition sous, avec, le même cas exprime l'accompagnement, ce qu'on appelle le comitatif, subroliu, avec un frère. Le même cas, l'instrumental, peut aussi être employé en lituanien pour introduire un complément prédicatif s'il renvoie à une qualification provisoire, alors que le nominatif est employé pour une qualification permanente. On opposera ainsi les exemples 3 et 4. Jis buvo mokytojas, avec le nominatif, il était enseignant, signifie qu'il avait un statut permanent d'enseignant. Jis buvo mokytoju, il était enseignant, employé comme enseignant pour un certain temps, avec le cas instrumental. La distinction entre qualification permanente au nominatif et qualification provisoire à l'instrumental se retrouve dans les langues slaves voisines, notamment en russe, dans des conditions similaires. On opposera ainsi on vrach, il est docteur, statut permanent au nominatif, on unas vrachom, par exemple, il est docteur chez nous, employé comme docteur pour un certain temps à l'instrumental. La même distinction existe en polonais, mais elle sépare les prédicats adjectivaux au nominatif et les prédicats nominaux à l'instrumental. On jest piękne, nominatif pour l'adjectif. On jest żołnierzem, il est soldat, instrumental pour le substantif. On a parfois supposé que l'instrumental prédicatif résultait en lituanien d'une influence des langues slaves voisines. Ce que l'on observe en tout cas est que la construction lituanienne ne peut pas être imitée du polonais, où la distribution de l'instrumental prédicatif est de nature grammaticale. Elle oppose les noms et les adjectifs, et non pas de nature sémantique opposant une qualification provisoire ou permanente. Une source plus directe pourrait alors être le russe, mais pas sous sa forme moderne, parce que l'instrumental prédicatif apparaît dès les premiers textes lituaniens, au XVIe siècle, bien avant l'influence russe moderne, bien avant l'occupation soviétique en particulier. On pourrait penser à l'époque du vieux russe, variété de langue slave orientale, utilisée comme langue de chancellerie dans le Grand-Duché de Lituanie au Moyen-Âge. Il est toutefois difficile de l'affirmer avec certitude, et l'on pourrait tout aussi bien admettre que l'instrumental prédicatif est en lituanien un héritage propre, mais partagé avec le slave. On sait que les langues baltiques et les langues slaves, tout en étant clairement des branches indépendantes au sein de la famille indo-européenne, présentent des convergences spécifiques qui ont conduit le linguiste à les tirer d'un ancêtre commun qu'on appelle le balto-slave. L'instrumental prédicatif pourrait résulter d'une innovation commune aux Baltiques et aux Slaves, et non pas d'une imitation tardive d'un modèle slave en Baltique. En réalité, pour qu'on puisse attribuer un trait du lituanien à une influence externe, il faut disposer d'indices qui font ici défaut. L'approche aryale du lituanien est ancienne, mais elle s'est développée surtout depuis la fin du XXe siècle, une fois que les modèles descriptifs du contact linguistique ont été affinés. Cette approche a permis de mettre à jour des phénomènes de diffusion relativement étendus, incluant non seulement les langues slaves voisines, mais aussi, en partie, les langues finno-ougriennes. On a pu parler de la Baltique orientale comme d'une ère linguistique, ce qui est très certainement valide, mais demande pour l'avenir des études plus nombreuses et plus détaillées. J'aborde maintenant, pour finir, l'approche typologique du lituanien. Historiquement, cette approche est la plus récente. Cela s'explique par la prédominance du modèle historiciste, qui a longtemps été fasciné par l'archaïsme du lituanien, mais aussi par le fait que la typologie linguistique, fondée sur la recherche de traits universels du langage, s'est développée à partir des années 1960 en se tournant prioritairement vers la diversité des langues du monde. Cet élargissement de la recherche s'est également accompagné d'un approfondissement des modèles théoriques aptes à décrire les langues. Il suffit de penser ici aux différents modèles générativistes qui ont profondément renouvelé la linguistique depuis les années 1950. Dans les dernières décennies, le lituanien a pris sa place dans la linguistique moderne et ses traits les plus remarquables, indépendamment de la question de leur antiquité, ont été intégrés aux réflexions générales de la typologie linguistique. Je prendrai ici un exemple qui montre l'apport du lituanien à la linguistique moderne, la question de l'évidentiel. Il existe en lituanien un riche système de participes. Ces formes connaissent divers emplois dans la langue, mais l'un d'entre eux attire particulièrement l'attention. Un participe peut constituer le noyau verbal d'une prédication simple au lieu de l'indicatif, et l'énoncé se charge alors d'une valeur sémantique spéciale, indiquant une source indirecte d'information. On peut ainsi comparer les deux exemples suivants. Danute dirba moki kloje. Danute travaille à l'école. Avec l'indicatif, je signale qu'il s'agit d'un fait avéré. Danute dirbanti moki kloje. Danute travaillerait à l'école. Avec le participe, j'indique que c'est seulement ce que l'on dit, ce n'est pas sûr, ce n'est pas garanti. Lorsque le participe est le noyau du prédicat, celui qui parle signale qu'il ne prend pas à sa charge le contenu de ce prédicat. Cet usage a reçu le nom de mode relatif et le terme lituanien est nietiesloginė nuosaka, le mode indirect. Il se rencontre notamment dans les médias lorsque le journaliste tient à indiquer que l'information n'est pas confirmée, comme le ferait le conditionnel en français. Le mode relatif du lituanien relève d'une catégorie sémantique observée pour la première fois par Franz Boas en 1947 à propos d'une langue amérindienne parlée en Colombie-Britannique au Canada, le Kwakiutl, puis étendue par Roman Jakobson en 1957 aux langues des Balkans, notamment le bulgare, où l'on observe un emploi comparable du participe dans ce qu'on appelle le mode renarratif. On peut ainsi opposer en bulgare 11 et 12. Maria napisa kniga, Maria a écrit un livre, avec l'indicatif, il s'agit d'un fait avéré. Et Maria napisa la kniga, Maria aurait écrit un livre, avec le participe, on signale que c'est ce qu'on dit, ce n'est pas sûr, ce n'est pas garanti. Jakobson propose le terme evidential pour décrire le phénomène et il en donne la définition suivante, qui est indiquée sur la diapositive, insistant sur le caractère indirect de l'information. Vers la même époque, le linguiste Gilbert Lazare proposa en français le terme médiatif pour décrire le même phénomène en tadjik, une langue iranienne. Ce terme a été repris par Zlatka Gencheva en 1996 et 2007. De son côté, Claude Agege parlait de médiaphore. Ces différents termes proposés en français avaient pour but d'éviter d'utiliser le terme évidentiel, parce qu'en français, il évoque évidence, ce qui paraît contradictoire avec l'évidentiel en tant que celui-ci marque une absence de confirmation du contenu de l'énoncé. Dans la littérature typologique, la notion d'évidentiel a connu une grande diffusion et les faits du lituanien sont désormais clairement répertoriés, identifiés et analysés comme relevant de l'évidentiel. Des travaux récents se sont efforcés de distinguer deux notions, l'évidentialité en tant qu'elle donne une indication sur la source de l'information et la modalité épistémique qui indique le degré de véracité accordé par le locuteur à l'énoncé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On trouve ainsi chez Divald et Smirnova l'ébauche de cette distinction entre évidentialité et modalité épistémique. Dans ce qu'on appelle le mode admiratif, la langue albanaise met l'accent sur l'évaluation subjective plus que sur la source de l'information. Donc vous avez les exemples 13 et 14. Tu es en Amérique, avec l'indicatif, il s'agit d'une simple constatation, et le second énoncé, tu es en Amérique, waouh, surprise. Avec le mode admiratif, on signale qu'on ne s'attendait pas à cette information. Alors que le mode renarratif du bulgare relève de l'évidentialité, le mode admiratif de l'albanais paraît relever plutôt de la modalité épistémique. Pour sa part, le mode relatif du lituanien donne plutôt une indication sur la source indirecte de l'information, comme en témoigne son usage dans les médias par les journalistes, plus que sur l'évaluation subjective. Il est donc plutôt évidentiel que épistémique. Toutefois, il n'est pas difficile de trouver en lituanien des exemples où prédomine l'évaluation subjective, comme l'exemple suivant. « Aijuriu ponia užmušta, stalčius išplėštas, pinigų nebėra. » Cet exemple provient d'une autrice très importante dans la culture populaire lituanienne, Žemaitė. Ce qui apparaît ici est que le mode relatif, la forme de participe, est utilisé pour marquer la surprise lors de la découverte du crime et du vol. Madame a été tuée, c'est la forme de participe, c'est l'évidentiel. Le tiroir a été forcé, c'est le participe, c'est la forme de l'évidentiel. Et dans les deux cas, on insiste sur le fait qu'il s'agit d'une surprise, on ne s'y attendait pas. En revanche, la conséquence, l'absence d'argent, est exprimée à l'indicatif. Nebara, c'est une forme d'indicatif, ce qui est tout à fait normal parce que ce n'est pas une surprise, dès lors que l'absence d'argent découle logiquement de ce qui précède. Cet exemple montre que le mode relatif du lituanien, généralement restreint à l'expression d'une source indirecte d'information, peut acquérir un sens subjectif, exprimant une surprise, la contradiction d'une attente, au même titre que l'admiratif de l'albanais. Il suggère donc que la distinction entre évidentialité et modalité épistémique n'est souvent qu'un effet de contexte, et que les deux fonctions sémantiques sont étroitement liées dans les mêmes langues. Il est temps de conclure cette brève présentation de la langue lituanienne, de son histoire et de ses perspectives. Dans cet exposé, j'ai tenté de montrer que cette langue offre aux linguistes un matériel exceptionnel, à la fois par son archaïsme au sein de la famille indo-européenne, par sa position dans l'aire géographique baltique et par ses particularités typologiques. Les notes prises par Antoine Meillet, qui ont été récemment découvertes au Collège de France, relèvent de l'approche historique du lituanien, qui était alors prédominante. Cette approche demeure pleinement valide, même si elle est désormais enrichie par les perspectives aréales et typologiques, et le témoignage de Meillet il y a plus d'un siècle confirme la valeur de cette langue si fascinante pour les linguistes. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.